Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Moi en tout cas, mon Noël était assez cool. Pour cette affaire de fin d'année, j'ai vu l'ambiance familiale hein, des fêtes. J'ai choisi une affaire un peu huis clos, un peu, tu vois, ça va se buter entre les quatre murs de la maison. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. J'ai pas de trigger warning à vous donner. Donc du coup, je vous présente tout de suite l'affaire Zawadzki. Avant de rentrer dans le vif du sujet, présentons un peu nos protagonistes. Donc on a Jean-Paul Zawadzki, la victime. Il est mécanicien d'équipage à la base aérienne de Brissy dans le Val-de-Loire. Il est major. Il est apprécié par tout le monde, hein. Ses amis lui donnent le bon Dieu sans confession, quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux. Et il a ce petit truc cute d'avoir réussi à réaliser son rêve qui était de travailler avec des avions. Donc voilà, il a une vie assez posée, il est assez posé lui-même, mais normalement, sans les deux personnes que je vais vous présenter après, bah il aurait vécu une vie tout à fait normale et heureuse. Passons maintenant à sa femme. Nicole Prévost est une fille d'agriculteur. Selon elle, sa famille est dysfonctionnelle, donc elle grandit dans un mauvais environnement. Mais après, c'est elle qui le dit, et vous comprendrez plus tard pourquoi je précise ça. Hein. On ne peut pas vraiment prendre sa parole pour argent comptant. Donc à 18 ans, elle se fait engager comme vendeuse, mais elle est rapidement virée parce qu'elle vole dans la caisse. Elle est ensuite engagée comme guichetière dans une banque, et elle vole encore dans la caisse. Et pour éviter la prison, elle emprunte de l'argent à sa grand-mère pour rembourser la banque. Ensuite, elle finit par se faire engager dans un foyer où elle commence à enjoliver un peu sa vie, mais de manière bizarre. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a un cancer, que sa mère a un cancer et que son frère jumeau a été tué par la mafia italienne. Alors, tout est faux et c'est des mensonges vraiment où la meuf s'est pas dosée, quoi. C'est pas le petit mensonge pour se faire bien voir. C'est vraiment, elle réinvente toute sa vie. Elle dira même plus tard qu'elle était directrice de ce foyer, mais en fait, elle était que secrétaire. Enfin, notre troisième protagoniste est Michel Trouillard-Perrault. C'est un médecin, généraliste, fils de chirurgien. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il est fade, vraiment fade. À part, s'il n'avait pas fait partie de cette affaire, en gros, ce serait un de ces mecs que tu oublies quasiment immédiatement, quoi. Bon, maintenant qu'on a présenté un peu tout le monde, on peut commencer à s'intéresser à la vie de famille de Jean-Paul et Nicole. Donc, Jean-Paul rencontre Nicole en boîte de nuit, donc déjà ça part mal. Enfin, je sais pas pour vous, hein, mais moi je m'imagine pas rencontrer l'amour de ma vie en boîte de nuit. Après, il y a peut-être des gens qui ont rencontré l'amour de leur vie en boîte de nuit, ça les regarde. Si c'est votre cas, ça vous regarde, mais en tout cas, c'est pas torché à 2h du matin que je m'attends à rencontrer Cupidon. Bref, donc ils se sont rencontrés en boîte de nuit et ils se sont mariés en 1980. Ils ont emménagé à Sougis, près d'Orléans, dans un pavillon que Jean-Paul a fait construire. Et le couple met 2 secondes vraiment à battre de l'aile. C'était quasiment immédiat. En effet, Nicole reproche à Jean-Paul de partir trop souvent en mission. Donc là-dessus, je me questionne un peu, parce que Nicole, tu sais quand même qui t'a marié. Je m'attends pas à ce que t'aies demandé le CV du gars, mais tu savais qu'il était dans l'armée, enfin, t'as quand même accepté la bague, à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon, bref, Nicole se plaint, d'ailleurs, vous verrez qu'elle fait quasiment que ça, mais le couple arrive quand même à avoir une fille en 1988, et c'est en 1990 que Michel Trouillard-Perrault rentre dans l'équation, puisqu'il devient leur médecin traitant. Et Nicole et Michel ont un coup de foudre quasi immédiat. Il débute en une liaison amoureuse en 1991, et absolument tout le monde dans le village de Sougis les grille, sauf Jean-Paul qui est parti en mission la plupart du temps. Vous allez sûrement me dire, mais Elsa, ça aboutit à un divorce, pas à un meurtre. Oui, je sais, mais en fait, ça aurait abouti à un divorce si tout le monde était parfaitement équilibré dans cette situation. Mais Nicole est tarée et Michel est facilement influençable, ce que vous allez voir évidemment dans la partie d'après. Maintenant, on sait que Nicole est une menteuse sans foi ni loi, vraiment. Hein, elle ment matin, midi, soir et ne s'excuse pas quand on la chope. Et dès qu'elle commence sa liaison avec Michel, elle le matrixe. Elle lui malaxe le cerveau. C'est même pas qu'elle lui ment, c'est qu'elle lui lave le cerveau, vraiment. Vraiment, une lobotomie, t'as peur. Elle l'appelle jusqu'à 400 fois par mois. Elle lui raconte que Jean-Paul est un mari violent, qui la force à coucher avec ses amis tout en filmant le tout, et imite l'écriture de sa fille et son style de dessin pour faire des faux dessins à base de « Oh là là, Michel, il faut que tu aides ma maman, papa, il est méchant ». Voilà, la meuf est partie très, très, très loin. Et le pire, bah, c'est que ça marche. Michel est complètement sous son emprise, il quitte même sa famille pour elle, et il devient aussi taré qu'elle au final, puisqu'il décide de se débarrasser de Jean-Paul en l'empoisonnant avec du chlorure de potassium, parce que apparemment la police n'existe pas. Ah oui, et est-ce que j'ai mentionné qu'en plus des 400 appels par mois, Nicole a créé le personnage de Tante Julie, ce qui serait apparemment sa tante, et qui confirmerait ses dires en appelant Michel aussi, parce que Tante Julie a son numéro comme par magie, pour lui dire « Oh là là, il faut que tu aides ma nièce elle est en danger, kakakakakak ». Donc là, ouais, on part sur un vrai coup de pied retourné au lobe frontal, quoi. C'est le cerveau de Michel est complètement mou, complètement plat, il fond. Et malheureusement, dans tout ça, Jean-Paul n'a aucune idée de ce qui se trame et de ce qui va lui arriver. En janvier 1998, Jean-Paul rentre de mission en Gabon, et le pauvre, il a même pas le temps de défaire ses valises qu'il tombe malade, sans raison, il comprend pas pourquoi, et son état empire très rapidement, malgré les « soins » entre guillemets que Michel et Nicole lui prodiguent. D'ailleurs, Michel et Nicole, on dirait un nom de série à la « How I Met Your Mother », donc ça me déstabilise un peu, mais revenons à nos moutons. Jean-Paul agonise et finit par mourir le 11 mars 1998, et Michel déclare son décès comme mort naturelle. C'est aussi simple que ça. Nicole joue parfaitement la veuve éplorée, mais les gens commencent quand même à se poser des questions, parce que dès qu'elle touche les assurances-vie que Jean-Paul avait souscrit, elle s'achète une BM, elle rembourse les dettes de la famille, et elle achète des meubles et fait refaire le jardin. C'est pas vraiment un comportement de meuf qui a perdu l'amour de sa vie. Je vous cache pas que moi, si un jour je me marie avec un mec et qu'il crève, je vais pas me dire « Tiens, des bégonias, ce serait cool dans le jardin, tu trouves pas ?» Non, je serais en position fétale en train de chialer ma race. Mais voilà, c'est moi, c'est peut-être pas tout le monde. Non, c'est chelou quand même. C'est chelou de refaire son jardin. Pourquoi le jardin ? Moi, ça me viendrait pas en tête. Mais encore une fois, j'ai pas de pavillon. Bref. Alors, déjà que tout le monde avait trouvé la mort de Jean-Paul suspecte, son comportement laisse beaucoup à désirer, et au bout d'un moment, l'un des supérieurs de Jean-Paul informe la gendarmerie de ses suspicions, et une enquête est ouverte le 4 mai. L'enquête avance assez rapidement, comparée à certaines affaires dont j'ai pu parler, et le 2 juin, le corps du major est exhumé. Par contre, il y a un petit pépin, c'est que, alors qu'ils étaient en train d'exhumer le corps, Nicole a débarqué au cimetière. Voilà, une coïncidence, un hasard vraiment malheureux. Alors, du coup, les enquêteurs se disent, bon, ben, maintenant elle a des chances de fuir, donc on va l'amener au Comico. Et voilà, il la pose dans la salle d'interrogatoire et elle attend. Ce qu'elle ne sait pas, par contre, c'est que Michel aussi s'est fait embarquer et qu'il va rapidement avouer les faits, parce qu'en fait, ça lui tiraillait la conscience depuis un moment. Donc, elle va maintenir son innocence, elle, mais vraiment, c'est une petite gaffe qui va prouver sa culpabilité, puisqu'elle mentionne que le jour de sa mort, Jean-Paul a mangé un petit déjeuner copieux. Or, selon l'autopsie qui a été pratiquée, il était dans un état comateux. Donc, ouais, si je suis dans le coma, là, je mange pas des pancakes. Mais bref, les deux sont mis en examen, évidemment, et les enquêteurs découvrent rapidement que les dessins que Michel a vus n'étaient pas de la fille de Nicole, mais bien de Nicole elle-même. Et en plus de ça, la tante Julie n'existe pas. Et en plus de ça, le Père Noël non plus, il n'existe pas. Voilà, c'est des vérités qui sont dures à accepter. Ouais, mais voilà. Ça fait un sacré choc, je sais. La petite cerise sur ce gâteau à la merde, c'est que la fille de Nicole est interrogée et elle dit la vérité, que son père n'a jamais été violent et que sa mère, je cite, « ment tout le temps ». C'est chaud quand tu mytho tellement que ta propre fille te dit « la vie, tu forces ». Tu forces, maman. Aïe. Le procès de ceux qu'on appelle les amants maudits commence le 20 juin 2001 aux Assises d'Orléans. Alors Michel, il est perclus de culpabilité, vraiment. Il est désolé de ce qu'il a fait. Mais par contre, Nicole, elle maintient toujours son innocence. C'est-à-dire qu'elle va dire que tant que Julie existe, que c'est bien sa fille qui a fait ces dessins-là, que tout est une conspiration. Et vraiment, c'est tellement surréaliste que à certains moments, les gens qui sont dans l'assistance éclatent de rire. C'est tellement ridicule que les gens peuvent pas se retenir de rigoler dans un tribunal. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment... elle s'accroche à ses mensonges comme à une bouée de sauvetage, envers et contre tout, même quand les gens lui demandent « Bah, elle est où tant Julie, du coup ?» Perso, j'ai pas les transcriptions du procès, je sais pas ce qu'elle a répondu, mais il y a forcément quelqu'un qui lui a demandé à un moment « Ouais, tante Julie, elle est où ?» Et elle a répondu quoi à ce moment-là ? J'imagine qu'on ne saura jamais. Donc, Michel, il prend 20 ans de 20 ans ferme, et il accepte sa peine, il dit « Bon, si c'est le temps que j'ai à faire, je vais le faire. » Et Nicole, elle prend 25 ans, et elle accepte pas sa peine, parce que, c'est pas Madame Nicole Zawadzki, née Prévost, que vous allez mettre en prison. Donc elle fait appel, ce qui lui vaut 3 ans de plus. Et sur ce coup-là, j'ai pas pitié d'elle. Hein. Bref, Michel est libéré au bout de 9 ans, Nicole au bout de 12 ans. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ils ont disparu dans la nature. À notre connaissance, ils se sont jamais revus. Mais voilà, quoi, c'est un peu un tout est bien qui finit bien, parce que perso, je me prends deux assurances vie, j'achète des mercos, je refais mon pavillon, et je fais que 12 ans de prison. Perso, moi je considère que j'ai gagné. Donc je vais considérer que Nicole a gagné. Et c'est scandaleux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Twitter, @ElsaETC, ou sur murderwinecheese.com. N'hésitez pas non plus à me faire des suggestions d'affaires si vous en avez, ou à faire un petit don sur le PayPal. Le lien est dans la description, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un micro décent qui isole le bruit. Bref. Sur ce, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, un joli nouvel an, et que vous avez beaucoup d'espoir pour 2022, parce que c'est pas forcément mon cas. Mais bref, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Ou une bonne vie, quoi. Allez, salut !